de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, Cinérama, c'est 30 minutes pour parler de cinéma. Non, nous ne parlerons pas de la saison 2 de The Last of Us qui a débuté, mais nous parlerons chacun de deux films. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Car il n'y a pas de collègues féminines aujourd'hui. Alors, pour vous, deux films, Guillaume.
Oui, bonjour. Ben moi, alors pas forcément malheureusement le haut du panier aujourd'hui. Je vais vous parler de G20 et de Piégé, qui est la dernière production de Sam Raimi, ce qui m'a donné envie de le voir.
Et puis, eh bien, ça donnera l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie d'Anthony Hopkins. Et puis toi, Manu.
Et ce sera donc « Comment devenir riche grâce à ma grand-mère » et « Mikado ».
Oui, film français. Et moi, je vous parlerai du dernier film de Régis Varnier, La Réparation. Et on écoutera quelques mots du réalisateur, puisque j'avais eu le plaisir de l'avoir quelques moments au téléphone. Mais nous allons commencer par Max, qui est une jeune fille qui veut faire de la Formule 1. Mais ça ne sera pas facile. Nous parlons du film Rapide.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Tu veux être la meilleure? Alors prouve-le que t'es la meilleure. C'est sur la piste que tu gagneras le respect.
Alors, le cinéma s'intéresse de plus en plus à la compétition automobile. Dernièrement, il y a eu Rush sur la rivalité Lauda Hunt, puis Le Mans 66 sur la rivalité Ferrari-Ford, ou encore le biopic sur Enzo Ferrari par Michael Mann. Le potentiel est là, d'autant que Netflix a bâti une série sur la Formule 1, donnant à ce sport un nouveau public, au point qu'un film est très attendu en juin, le bien nommé F1, avec Brad Pitt. Et pour ce film, la production a pu tourner des scènes durant les véritables Grands Prix de Formule 1. L'immersion sera donc totale et on imagine que la vraisemblance sera de mise. Alors ce n'est pas le cas de Rapide, film français de Morgan S. Dalibert qui nous raconte la trajectoire d'une fille qui a toujours aimé la vitesse, qui fait du karting un peu par hasard et qui n'a qu'un rêve, faire de la Formule 1. Ce n'est pas le talent qui lui manque, mais simplement le fait d'être une fille, nous assure-t-on.
Si vous m'avez stalké, vous devez savoir que je pilote plus.
On pilote plus. On pilote plus. Oh. Jusqu'au jour où on rentre dans un bolide. On va aller loin ensemble. Par contre, il va falloir sérieusement s'entraîner si tu veux garder ta place.
Alors, c'est tout ce que t'as?
Ça me tue pas trop.
Et en réflexe, t'es nul ou pas?
Ok, t'es nul.
Mais voilà, nous sommes au cinéma. Alors après un événement tragique suivant une immense déception, celle qui s'appelle Max choisit de tourner le dos à la compétition automobile. Mais par hasard, elle croise la route d'un homme fantasque qui remarque son potentiel, interprété par un Alban Lenoir en roue libre, si je puis dire. Il fait tout pour l'imposer dans ce monde de la compétition automobile tout en cachant son jeu. Max ne cherche pas à savoir qui il est vraiment. Elle sait juste que c'est un ancien pilote. Alors il roule en Ferrari, connaît le monde de la compétition, parvient à l'imposer et son jeu sera dévoilé plus tard.
T'as pas le mal de l'air, j'espère?
Si.
Formidable.
Tu sais qu'on pourra jamais être ensemble, toi et moi. Ce week-end, en calife, je vais te massacrer et tu vas me détester.
T'es chiant parce que t'as raison. À part que c'est moi qui vais te botter le cul.
Tu pouvais jouer le podium, là, on y était. Va falloir que tu commences à me faire confiance, hein.
C'est ça ton pilote?
Je te présente Max.
C'est bizarre comme nom pour une fille.
Tu me parles de ça alors que tu me voles mon championnat, Max.
Carrément, ton championnat à toi.
Tu veux être la meilleure? Alors prouve-le que t'es la meilleure. C'est sur la piste que tu gagneras le respect.
On l'entend, il y a un peu de bruit. Si le scénario est assez limpide et que l'objectif F1 se profile, ce ne sera pas pour autant simple pour Max qui va devoir non seulement parvenir à gagner des courses, mais aussi à faire sauter le verrou masculiniste. Alors c'est vrai que la course automobile est un monde masculin, comme le montre le film, mais ce n'est pas du tout idéologique, mais plutôt structurel. S'il n'y a pas eu de femmes en Formule 1 depuis les années 70, eh bien c'est parce qu'il n'y en a aucune de compétitive, car elles ne sont pas assez représentées dans les catégories inférieure, c'est statistique. Mais contrairement à ce que laisse penser le film, s'il y avait une fille qui parvenait à faire mieux que les hommes en catégorie inférieure, elle les doublerait aussi pour les décideurs et accéderait aux plus grosses catégories. Un chef d'équipe veut voir son équipe gagner, c'est intéressant pour les sponsors et ainsi de suite.
fait.
Il la contrôle plus là.
Elle va se faire disqualifier.
Putain.
Dis-lui s'arrêter maintenant.
Calme.
T'es en train de me proposer d'être ton ingé?
Ouais.
Oh, mais ça veut dire que je vais devoir me coltiner ton caractère de merde pendant au moins un an.
Rapide obéit un scénario trop peu innovant et une mise en scène qui reste pauvre quand on pense aux images de Rush ou Le Mans 66. Tout est à l'économie, le championnat de Formule 2 qui se joue à une quinzaine de voitures sur des petits circuits. Le film voudrait nous faire croire à l'immersion, mais faillit vraiment à sa tâche quand il veut expliquer le rôle de l'ingénieur, l'importance de bien traiter ses pneus pour être compétitif. Pour moi qui suis la compétition automobile, c'est une immense déception. Le rôle de l'ingénieur est encore tenu par Alban Lenoir qui joue donc les cumulards puisqu'il est déjà agent. Et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la réalité. Or, la compétition automobile, c'est une majorité d'ingénieurs et pas de beaux parleurs. Évoquons une séquence de premier plan qui montre une voiture moteur en feu continuer de griller les autres. C'est le cas de le dire. Eh bien non, un moteur en feu n'est pas performant. Voilà, c'est l'écueil qu'évitera sûrement le film F1 avec Brad Pitt. En mêlant effets vraisemblables et erronés, Rapide est donc une déception, un film de second plan qui peine aussi à faire mesurer l'attachement à la vitesse de l'héroïne. Le récent documentaire réalisé par Canal+ sur Alain Prost, seul champion français de Formule 1, est bien plus éclairant. Il explique beaucoup sur la part de hasard, sur le travail des sacrifices, Prost ayant commencé le karting avec un bras dans le plâtre. Voilà un bon début de scénario. Rapide est en salle depuis le 16 avril. Félix Moati et Vima Laponce, deux parents qui refusent le monde à leurs enfants. Nous parlons de Mikado.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Double actualité pour Baya Ghasmi, hein, qui co-scénarise le mélange des genres de son compagnon Michel Leclerc et réalise Mikado 2 ans après l'excellent Youssef Salem a du succès, modèle d'équilibre entre drôlerie et émotion. Alors en quittant le registre de la comédie pure, hein, elle se tourne vers la chronique sociale et familiale, abordant un sujet délicat qui a inspiré déjà quelques films, hein, dont À bout de course de Sidney Lumet, hein, référence écrasante, ou plus près de chez nous, hein, La vie sauvage de Cédric Kahn, soit une histoire sur un choix de vivre, celui de vivre hors système, quitte à fuir constamment. Mikado est un enfant de la DAS, maltraité dans son enfance, passant de famille d'accueil en famille d'accueil. Il parcourt les routes avec Laetitia et leurs 2 enfants non déclarés. Une panne les amène donc à s'installer quelques jours en été en Provence, chez Vincent, un enseignant qui vit seul avec sa fille. Et cette parenthèse enchantée, dans un lieu assez paradisiaque, hein, au lieu d'apaiser les esprits, pourrait bien bouleverser l'équilibre fragile de cette famille entre Laetitia, visiblement épuisée de fuir, et sa fille qui commence à rêver d'une existence normale.
Putain de merde.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio.
C'est notre maison, ce camion.
La couleur du ciel.
La pièce, elle coûte un bras. Le délai de livraison, c'est 2 semaines.
En attendant la pièce, on peut rester dans votre jardin.
On adorera la rue que tu habitais.
Ils vont rester longtemps, tes potes, avec le camion, là?
Ils ont pas la vie facile. Ça, tu peux le comprendre, quand même.
Alors, baignant dans une lumière magnifique, hein, et même bercé par... moi, j'aime beaucoup cette chanson de Nino Ferrer. Hein, Mikado a pour mérite d'être visuellement très soigné. Mais cette joliesse plastique, accentuée d'ailleurs par un très beau format en scope, hein, est à l'image de la déception du film, hein, qui pêche par une écriture que je trouve forcée, hein, jamais à la hauteur de ses ambitions. Le personnage éponyme, ce marginal en souffrance, n'est qu'un bloc de rancœur toujours agressif envers ses proches, proche de la maltraitance. Alors, le manque de nuance est d'autant plus gênant que Félix Moati, moi, je trouve qu'il surjoue un peu constamment le type écorché et parano. Pourtant, Baya Ghasmi a évidemment de la tendresse envers lui, mais par maladresse, il devient pénible, insupportable, au point que l'on souhaite qu'il se fasse arrêter dans son élan de vie de bohème. Alors ce problème révèle peut-être inconsciemment la grande faiblesse du film, qui, derrière la bienveillance réelle, hein, ne laisse pas d'autre choix au spectateur de constater que le confort bourgeois, ou du moins la vie en société, c'est quand même mieux que la marginalité, surtout si on enfreint des lois. Alors du coup, Baya Ghasmi, dont la sincérité n'est pas en cause, en voulant faire bien, elle prend quand même parti du côté de la norme et de la stabilité.
Officiellement, je suis jamais née.
Il se passe quoi si quelqu'un déclare pas son gosse? Je vois pas que les momies se sentent bien ici.
T'as pas envie que ça?
Ah si, mais pas avec des choses qu'on peut pas se permettre.
C'est difficile le collège.
Bah tu voyais.
Il est très gentil et très intelligent, je trouve.
Il est prof quoi. Je crois que je vois pas ce que t'es en train de faire.
Je vous aime bien, c'est tout.
Tellement que tu veux me voler ma fille.
J'ai assez de problèmes comme ça, moi, dans ma vie, pour que vous veniez m'en rajouter.
Alors le discours humaniste bien pensant, hein, plombe quand même Mikado, hein, qui n'est pourtant pas sans qualité, hein, hormis Félix Moati, hein, tous les autres comédiens sont vraiment excellents, à commencer par Ramzi Media, hein, déjà génial dans Youssef Salem, hein, parfait en prof dépressif, et pourtant je trouve pas le rôle très très bien écrit, hein. Anéanti donc par la mort de sa femme, sa prestation impressionne par son naturel et son authenticité, hein, ce qui fait regretter le fait qu'il accepte autant de rôles pourris dans des comédies navrantes. Alors c'est un choix de carrière, mais c'est bien dommage. Et puis bon, il y a Vima Laponce, hein, qui confirme qu'elle est peut-être une des actrices les plus importantes de sa génération. Alors bref, pour moi une déception, hein, de la part d'une réalisatrice et scénariste que je trouve très talentueuse, mais je crois que le manque d'humour ou l'absence d'humour dans le film, qui est volontaire, est aussi un peu la clé pour moi du semi-échec du film. Se prendre trop au sérieux, pour moi, n'est pas toujours payant.
Moi, j'ai plutôt apprécié, notamment, alors, y compris Félix Moati, qui effectivement a un personnage qui est très agaçant et qui peut pas s'empêcher de prendre à. Enfin, il a une espèce de rire nerveux dès qu'il raconte quelque chose de triste. Enfin, c'est assez déstabilisant.
Mais il est même toxique. Et je trouve qu'on ne fait pas grand chose de ça dans le film.
Mais tout s'éclaire à la fin. Enfin, je veux dire, son personnage, évolue durant tout le film. Enfin, parce que c'est lui la clé, hein, d'ailleurs, de cette espèce de huis clos. Parce que c'est une sorte de huis clos qui se passe dans une maison provençale. Effectivement, qui est une espèce de havre comme ça, de paix pour cette famille qui n'arrête pas d'aller sur les routes. Voilà. Bon, mais voilà, Mikado, ça peut être tenté.
Moi, je crois que c'est vraiment l'issue du film, mais on ne peut pas révéler. Oui. Voilà, c'est vraiment l'issue du film qui me pose vraiment un problème.
C'est à peu près la même issue que dans Capitaine Fantastique, d'ailleurs.
Et ça me posait le même problème.
Et oui, voilà. Le film est visible depuis le 9 avril. Un voleur piégé à l'intérieur d'une voiture. Eh bien, nous parlons de piégé.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Cinérama.
Dure époque, hein, pour un film comme Piégé, prototype classique de série B guidé par un concept, au moment où même ce format est repris par des studios comme par exemple A24, hein, et que l'horreur ou le thriller sont devenus des fausses manifestations d'auteurs. Alors rien que ces derniers mois, on a eu présence et The Monkey, hein, qui ont montré tout le mal que l'on peut faire à un récit de ce genre, le premier en faisant continuellement prendre l'escalier à son ectoplasme qui expérimente des blackouts en fondu au noir, et le second en tournant en potage déconnecté une nouvelle premier degré poisseuse et terrifiante de Stephen King. Piégé, malheureusement, n'a pas les épaules, hein, pour proposer une alternative sérieuse à ces spectacles, mais n'est quand même pas dénué de très menues qualités qui seraient intéressantes de nommer.
Je m'appelle William. Je suis le propriétaire de cette voiture.
Vous voulez quoi ?
Tu ne voleras point.
Vous venez de me taser ?
Je veux que vous assumiez les conséquences de vos actes.
Tiens, je peux sortir ! Aidez-moi !
Sale temps, hein, pour Eddie, hein, qui décide de voler une voiture de luxe négligemment garée dans un quartier mal famé de la ville. Mauvaise pioche, hein, car elle appartient à William, un vieux monsieur qui a une revanche à prendre sur le crime, et sa colère s'abat sur le pauvre Eddie qui n'en demandait pas tant. Alors enfermé dans la voiture piégée, il va devoir se battre contre une prison high-tech, véritable piège de Jigsaw, hein, de la saga Saw, mais sans le fun et l'exagération gore au rendez-vous, même si c'est quand même un petit peu sanglant. Alors dans sa quête de vengeance, hein, William est devenu un vieux sadique sans pitié envers le genre humain, et le cas d'Eddie va lui permettre de faire péter les compteurs, hein, car ce dernier va se révéler plus intéressant que la moyenne. Il est plus sensible, plus intelligent, et bien sûr, il a un motif plus ou moins bon pour voler la voiture. Voilà que le piège de Piégé se referme sur une écriture, hein, qui méritait plus de finesse, car on tombe à pieds joints dans le traquenard du vilain au grand cœur face au vieux réac, sans l'intelligence du script du premier, un justicier dans la ville, hein, qui jouait brillamment avec la zone grise, noire, hein, de la colère, amenant au sujet assez tabou de l'autodéfense.
Ça y est, je peux avoir votre attention. J'ai investi beaucoup de temps et d'argent dans ce projet. Cette voiture est blindée et le réseau est totalement brouillé.
Dites-moi ce que vous voulez.
Je veux seulement vous offrir...
Non.
Un petit avant-goût de l'enfer.
Alors on pouvait s'y attendre dès le générique de début, hein, car on sait que malheureusement, quand on voit le nom de Sam Raimi à la production, c'est malheureusement jamais vraiment brillant. Hein. Et c'est extrêmement étonnant, car si le réalisateur sait être un véritable génie dans ses propres réalisations, il a du mal à trouver de quoi faire briller ses productions, et Piégé, c'est le dernier en date à nous décevoir. C'est paradoxal, car l'une de ses seules vraies belles productions, intitulée Les Pages de l'Angoisse, hein, que vous avez peut-être vu sur Netflix il y a quelques temps, avait déjà été mise en boîte par le talentueux David Yarovesky. Alors son savoir-faire est clair, clairement au centre des quelques moments intéressants du film. La première partie surtout, qui montre une ville en totale déliquescence avec un montage alterné percutant, présentant les personnages et les enjeux, et un superbe plan séquence très très long, circulaire, lorsque Eddie se retrouve enfermé dans la voiture et qui tente de sortir jusqu'à l'apparition du titre quasiment une dizaine de minutes plus tard. Alors quand on sait la difficulté de l'exercice de renouveler des prises de vue dans un huis clos, et surtout après le brillant Buried de Rodrigo Cortez, ça rattrape la suite qui n'est pas vraiment à la hauteur, surtout dans sa vision assez puritaine du bien, du mal, coincé entre démagogie et nihilisme.
Piégé est en salle depuis le 9 avril, me semble-t-il, et ça nous donne l'occasion de jouer donc un blind test avec la filmographie de Anthony Hopkins, qui compte à peu près 200 films. C'est le premier extrait de ce blind test.
Vous croyez avoir été plus malin que lui ?
Ce n'est pas le diable. C'est juste une fille très malade. Elle n'a pas besoin d'un prêtre, elle a besoin d'un psy.
Il vous a encore bien eu, n'est-ce pas ?
Je vous laisse votre boîte à malice.
C'est un imposteur, Michael. C'est un imposteur.
C'est trouvé.
Et c'est donc Le Rite.
Oui, film de 2011 de Michael Avström, un séminariste sceptique assiste à contre-cœur des cours d'exorcisme au Vatican, organisé par les télé pontificales Regina Apostolorum. À Rome, il rencontre un prêtre peu ordinaire, le père Lucas. Ce prêtre, c'est Anthony Hopkins, et celui-ci présente la face obscure de sa foi. 800 000 entrées en France. Deuxième extrait de ce blind test consacré à Anthony Hopkins.
Les hommes, lors d'un long voyage, sombrent facilement dans la mélancolie et la violence. On peut y remédier par l'exercice pratiqué régulièrement. Pendant 20 minutes, chaque jour, tout l'équipage avait ordre de danser.
Danser ?
Oui, il dansait.
Cette activité, la pratiquait-il volontiers, à votre avis ?
Je le crois, oui.
Néanmoins, Monsieur Bly, dans votre journal, vous convenez que cet exercice de nature peu orthodoxe a provoqué un grave mécontentement.
Seulement une fois et encore, ainsi dans sans gravité.
C'est trouvé.
Oui, c'est Le Bounty de Roger Donaldson.
Film de 1984, une révolte gronde sur un navire faisant le voyage entre l'Angleterre et Tahiti. 382 000 entrées en France pour ce film. Troisième extrait.
Je sais que ce n'est pas très original. L'amour est passion. Obsession. Sa présence est vitale. Je veux dire, tombe à la renverse. Trouve quelqu'un que tu aimeras à la folie et qui t'aimera de la même manière. Trouver cet homme, eh bien, laisse de côté ta tête et sois l'écoute de ton cœur. S'il bat, en tout cas, je n'entends rien. La vérité, ma chérie, c'est que sans amour, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Être passé sur cette terre sans connaître l'amour, le vrai, eh bien, c'est être passé à côté de la vie.
C'est trouvé.
Et c'est donc Rencontre avec Joe Black,
oui,
de Martin Brest.
Oui, tout à fait. Sorti en 98, une nuit, le mania William Parrish ressent une violente douleur tandis qu'une voix surgissant des ténèbres lui annonce sa mort prochaine. Un inconnu frappe bientôt à sa porte et lui annonce sa disparition prochaine. Il personnifie la mort et vient passer avec William ses derniers jours pour partager avec lui des expériences humaines. 729 000 entrées en France pour ce film. Quatrième extrait consacré à ce blind test spécial Anthony Hopkins.
Vous savez, la cervelle elle-même ne souffre pas, Clarisse, ne vous en faites pas. Par exemple, Paul n'a que faire de ce petit morceau ici qui fait partie du lobe préfrontal censé être le siège des bonnes manières.
Votre profil au poste frontière consiste en 5 signes particuliers. Je vous fais une offre.
Une offre ?
Épargnez-le, je vous les révèle.
Quel goût a donc ce mot, Clarisse ? Une saveur métallique comme quand on suce une pièce rouillée.
Qui est Clarisse ?
L'agent Starling, Paul. Si vous ne suivez plus la conversation, mieux vaut vous abstenir de l'interrompre.
C'est moi, Paul. C'est moi, Starling.
Trouvé.
C'est Hannibal de Ridley Scott.
Oui, c'était facile. 10 ans après Le Silence des Agneaux, Hannibal Lecter rend toujours Clarisse Starling, devenue agent du FBI. De ce 2,5 millions d'entrées en France pour ce film qui a fait carton plein. Allez, dernier extrait.
Colonel, le Congrès...
Le Congrès, c'est le gouvernement. J'ai travaillé pour le gouvernement.
Les affaires que nous souhaitons voir...
Les Indiens. La grande affaire, à l'époque, c'était les Indiens. Je vous garantis, messieurs, qu'il n'est rien de plus grotesque que le spectacle d'une balle frappant un gosse, ou tout un village massacré pendant son sommeil. C'est ainsi que le gouvernement a réglé cette affaire-là, et rien ne me permet de penser aujourd'hui qu'il ait gagné depuis en clairvoyance ou en humanité.
Vous voyez, messieurs,
Mon père, pour qui j'ai le plus profond respect, dit que notre administration manque de clairvoyance et d'humanité.
Alors, ça n'a pas été trouvé. C'est un film avec, des Indiens, évidemment.
C'est un film.
C'est encore un film avec Brad Pitt.
Ah, Légende comme... d'automne, alors.
Oui. Tout à fait, d'Edward Zwick, film de 1995.
Je pensais à un autre film d'Edward Zwick d'ailleurs, c'était Glory, mais il n'y a absolument pas Anthony Hopkins.
Ouais, et voilà.
Il y a Denzel Washington.
1,4 million d'entrées en France pour ce film. Ainsi s'achève ce blind test consacré donc à la filmographie d'Anthony Hopkins. Un chef étoilé et son second disparaissent et c'est le monde de Clara qui est anéanti. Nous parlons de la réparation.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Cela faisait 11 ans que Régis Varnier, celui qui avait fait Indochine, n'avait pas sorti de long métrage. Avec La Réparation, il renoue avec le romanesque en teintant son film d'une forme de thriller au travers d'une histoire d'héritage autour de l'univers gastronomique. Voilà pour le grand trait.
Il y a deux règles en cuisine à savoir. L'inspiration, l'audace.
Salut papa.
Antoine, une étoile, tu sais à quoi ça tient?
À ça. À tout.
T'es belle.
À rien.
J'ai envie de me barrer.
Fais pas ça.
C'est l'histoire d'un grand chef cuisinier interprété par Clovis Cornillac qui disparaît avec son second lors d'une partie de chasse, précisément le jour de la remise des étoiles Michelin auquel il a droit. Le premier est le père de Clara, le second son amant, son amoureux. Son père aimerait qu'elle reste dans cette contrée bretonne pour prendre la suite du restaurant. On voit qu'il lui apprend à décrypter les saveurs. Mais avec son chéri, ils ont prévu de prendre le large. Sacré dilemme qui se voit anéanti donc par cette disparition. Mais l'histoire rebondit dans quelques mois plus tard, quand Clara reçoit une invitation pour Taïwan où se déroule un grand salon de gastronomie. Là-bas, étrangère à ce qui se passe, elle remarque que l'un des restaurants phares de la ville semble servir la même cuisine que son père. Elle se prend à imaginer qu'il est encore en vie, à moins que ça ne soit son amant.
J'ai reçu une invitation pour la foire de la gastronomie, à Taipei.
Et t'en déduis que ce message pourrait venir de...
D'Antoine.
Et mon père.
C'est le premier véritable indice en 2 ans.
N'épuise pas à courir après des fantômes.
Tu mets 2 hommes au monde. Il me rendait invincible.
C'est ma fille. Personne ne me la prendra, t'entends ?
Rien pouvait m'arriver. Et maintenant, quelque part.
Régis Varnier prend son temps pour nous immerger dans cet univers de la gastronomie avec un chef qui ne se donne aucune marge d'erreur. Il laisse entrevoir le difficile chemin du deuil, passablement compliqué, avec ses saveurs qui réveillent tous ses souvenirs. Au-delà de l'énigme à résoudre, la disparition parle également de la transmission, de ce qui donc se transmet d'un père à une fille, d'un chef à son personnel, et questionne la dimension existentielle de la liberté. Il n'y a rien que le spectateur ne sache avant son héroïne. C'est un procédé auquel tenait Régis Varnier, avec qui j'ai pu avoir une petite discussion. On écoute le réalisateur.
C'est elle le cœur du film, voilà. C'est elle qu'on suit et je me suis dit, on va faire le même voyage qu'elle, c'est-à-dire qu'on va pas à pas, on va accepter comme elle cette invitation au bout du monde à une foire gastronomique qui est forcément quelque chose d'intrigant parce que le mot Taïwan, ça résonne en elle parce que c'est là que son père a eu sa vocation. Donc elle y va en se disant, voilà, après ces 2 années sans nouvelles, c'est le seul indice auquel je peux croire, et elle y va. Voilà, après on ne va pas raconter, mais elle y va, et peu à peu, elle arrive là-bas dans un état particulier, parce qu'il y a eu un premier indice, elle a accepté cette forme de jeu de piste, et une fois qu'elle est là-bas, elle va attendre les signaux suivants. Mmh. Et nous, avec elle, voilà, et peu à peu, on va... plus on avance, moins c'est opaque et plus le mystère va trouver sa résolution.
C'était Régis Varnier qui parlait de La Réparation, son dernier long métrage en salle depuis le 16 avril. Un petit-fils tente de dégoter un héritage qui lui tend les bras. Nous parlons de comment devenir riche.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Premier long métrage d'un jeune réalisateur thaïlandais, donc Comment devenir riche grâce à ma grand-mère, possède déjà, on va dire, un des titres les plus ringards de l'année, nous renvoyant aux sombres heures de la comédie navrante bien de chez nous. Alors l'original, Lian Ma, signifie en fait le petit-fils de grand-mère, ce qui aurait semblé plus simple en fait. Mais au moins, le titre français n'est pas complètement faux, car il s'agit bien de l'histoire d'un jeune garçon, M, qui voit une opportunité de mettre fin à ses galères financières en s'occupant de sa grand-mère malade atteinte d'un cancer. En jouant les petits-fils modèles, il espère décrocher l'héritage, mais gagner ses faveurs n'est pas une mince affaire. Dans un premier temps, la vieille dame est coriace et intelligente, et elle a du répondant. Alors comme vous pouvez vous en douter, le petit-fils et la grand-mère vont progressivement se rapprocher. Ce qui commençait comme une comédie gentiment cynique se transforme en un plaidoyer envers l'aide aux aînés. D'ailleurs, un jour, je montrerai ce film à mes enfants quand j'aurai atteint un stade critique. Bref. Bon, Comment devenir riche demeure le plus gros succès en salle en Thaïlande pour l'année 2024. Comment ce carton peut-il s'expliquer? Est-il mérité? Bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de considération, sachant que chez nous, c'est bien un petit truc en plus qui a battu tous les records. Le film de Pat Bhutanipat est pétri de bons sentiments et d'intentions louables, ce qui n'amène que rarement la réussite. Ce feel-good movie, dosage prudent entre comédie, drame sur la fin de vie et satire sociale, n'est pas désagréable à regarder grâce à la présence d'excellentes comédien et puis de quelques séquences très cocasses, mais la mise en scène, une confondante platitude, se contente de suivre un scénario habile mais très programmatique. Pas une once d'idée de cinéma ne retient notre attention dans cette succession de plans moyens, de champ contre champ qui totalement standard. Alors rien de surprenant dans ce récit d'apprentissage où chaque séquence un peu gênante ou osée est désamorcée pour ne déranger personne. Ce qui explique finalement le succès du film, un produit honnête mais sans personnalité qui a pour mérite de traiter la mort avec une certaine délicatesse sans trop de pathos. Voilà.
Il est en salle depuis le 16 avril. La présidente des États-Unis est une dure à cuire. Nous parlons de G20.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Madame la présidente, situation de crise.
Arrestation dans quelques minutes.
Dans les années 90, le président américain était Bill Clinton et était l'incarnation, alors à tort ou à raison, de l'homme politique cool. Tous ceux qui ont vu Independence Day de Roland Emmerich se rappelleront du jeu d'un autre Bill Pullman, s'en inspirant fortement. En 2025, le 11 septembre a tout changé. Il y a eu une seconde guerre au Moyen-Orient et les administrations Obama et Trump ont laissé des traces. Et donc, la présidente jouée par Viola Davis est une ancienne marine qui a fait Fallujah, serre les dents dans tous ses plans et manie le fusil automatique avec maestria, peut-être plus que le bulletin de vote d'ailleurs. Lorsque le G20, qui ne sert que de décorum mais absolument pas d'intrigue, est attaqué lors de son sommet en Afrique du Sud. Alors en somme, c'est le président joué par Harrison Ford dans Air Force One qui combat les vilains militaires de The Rock de Michael Bay, mais sans la folie, le fun et le sens du spectacle. Vu qu'on cite le Wakanda de Marvel dès qu'un personnage noir prend de l'importance à l'écran. Alors l'ajout d'une intrigue à base de deepfake et crypto-monnaie pour renverser l'ordre mondial n'est même plus excitante pour nous réveiller suffisamment. Ce qui maintient un temps soit peu le battement de nos paupières, c'est le non-jeu de Viola Davis, encore plus monolithique que celui de Steven Seagal, lui aussi habitué à des récits inspirés par la structure de Die Hard, modèle indépassable du genre qui sera décidément pompé jusqu'à la fin des temps. Alors on nous refait même la scène du gunfight dans l'ascenseur de Die Hard 3, c'est dire.
J'implore tous les dirigeants présents à ce sommet du G20 de se joindre à moi.
Les 20 pays les plus puissants du monde réunis. Extinction dans 3, 2, 1.
Alors la réalisatrice mexicaine Patricia Riggens méritait peut-être, ou peut-être pas en fait, plus que ce film qui rappelle sa cible de contenu, qui tue l'action en ressoulignant toutes les 10 minutes les points supposément forts de son intrigue. Alors on y croit encore moins que son grand méchant, le fameux Homelander de la série The Boys, qui rivalise de statisme avec Viola Davis, ou sa doublure visible suivant le mauvais découpage des scènes. Alors à croire que le film a été produit pour achever de délégitimiser aux yeux des admirateurs de Trump l'air Obama, ce qui laisserait éventuellement fantasmer d'un film d'action pro-Trump dans les années à venir, parce que quitte à être nul, autant y aller franco, comme la Canon a su le faire avec ses Delta Force très politiques avec Chuck Norris dans les années 80. Alors ça risquera de piquer des yeux, on est d'accord, mais au fond, sûrement pas forcément plus que G20, et au moins, y aura peut-être des motos lance-missiles, comme avec Chuck Norris.
En tout cas, pour voir ce film que j'ai trouvé consternant, vous pouvez allumer la télé sur Prime
et fermer les yeux.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
La semaine prochaine, Guillaume, tu auras au moins un film.
Oui, Le Clan des Bêtes, et peut-être que je vous parlerai aussi de Simone de la Montagna.
Sophia reviendra pour nous parler d'Oxana, et je reviendrai avec un blind test. À la semaine prochaine.
Que fait réellement ce meurtrier que vous recherchez ?
Il tue des femmes.
Non, ça n'est qu'une incidence. Quelle est sa première motivation? À quel besoin se sent-il contraint d'obéir?
La colère? La société? Le rejet perpétuel? Trop de frustration sexuelle?
Non, la convoitise. Voilà sa vraie nature. Et d'après vous, où commence la convoitise?
This is Cinerama. 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 Cinerama.